affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons passer une petite heure en compagnie de Marcel Proust. Mais ce sera un Marcel Proust plus inédit que celui que nous évoquons habituellement sur notre antenne et en toutes circonstances d'ailleurs, puisque nous allons évoquer, pour reprendre le titre d'un livre du professeur François-Bernard Michel, le professeur Marcel Proust, professeur de surcroît non de littérature, mais de médecine, ce qui nous laisse au premier abord perplexe, mais ne l'est pas. En effet, comme nous l'apprend le professeur François-Bernard Michel, non seulement Proust a une connaissance intime de la maladie, car il souffrait notamment d'asthme, mais il évoluait dans un milieu extrêmement médical et médicalisé. Et enfin, il en a fait non seulement un matériau pour sa littérature et ses romans, mais par ailleurs, ses romans ont des aspects qui les rapprochent d'une forme de thérapie. Tout cela va donc nous conduire à réexaminer les rapports entre les causes physiques et psychologiques ou métaphysiques ou même morales des maladies, à nous pencher vers la façon dont la médecine a évolué dans la compréhension de toutes ces choses. C'est donc un voyage à la fois dans le temps, dans la connaissance, aux franges de la littérature, de la littérature et de la médecine. Voyage périlleux, car on pourra basculer sans cesse dans des abîmes lorsqu'on n'est pas spécialiste de ces questions. Mais par chance, nous avons dans notre studio un spécialiste de ces questions, familier à la fois de Proust, spécialiste de la maladie dont il était principalement affecté, à savoir l'asthme. Et donc voilà, je suis heureux d'accueillir dans notre studio le professeur François-Bernard Michel, qui signe aux éditions Gallimard le professeur Marcel Proust et qui va donc nous expliquer tout cela. Pour commencer, peut-être est-il nécessaire, professeur, de nous rappeler quelles étaient les affections dont souffrait Marcel Proust.
Alors, il souffrait de beaucoup de choses parce que dans l'évolution de son asthme, il avait des traitements, il s'auto-prescrivait lui-même beaucoup de choses et par conséquent, beaucoup de maladies induites, digestives, des troubles du sommeil, évidemment. Tout le monde connaît l'insomnie de Proust qui dort le jour et écrit la nuit. Mais son problème numéro un, c'est évidemment l'asthme bronchique et les symptômes ORL qui vont avec, c'est-à-dire la rhinite. Et je voudrais souligner d'emblée qu'on a souvent mésestimé cet asthme, si bien que certains ont qualifié Proust de monsieur qui sortait beaucoup dans les salons et dont l'asthme était une espèce de coquetterie, un alibi pour s'excuser de se faire pardonner beaucoup de choses. Et c'est vrai que Marcel Proust a utilisé son asthme en alibi de nombreuses impossibilités, mais ça n'autorise pas à dire que son asthme était léger, était bénin. Non, c'est un vrai handicap de toute une vie qu'il a vraiment fait souffrir de façon souvent dramatique et qui a entraîné son décès prématuré à l'âge de 52 ans.
Alors, du reste, ce malheureux Marcel Proust, dans son malheur, aurait pu avoir une chance, c'est de naître dans un milieu où il est entouré de médecins, et pas les moindres, puisque son propre père est professeur de médecine.
Bien sûr. Adrien Proust est professeur à la faculté de médecine de Paris, et Marcel, très, très jeune, d'emblée, rencontre des collègues de professeurs de médecine de son père, que ce soit au domicile familial lorsqu'ils sont invités, que ce soit à l'extérieur comme chez le fameux professeur Samuel Pozzi lorsque Adrien Proust amène son fils avec lui. Bref, alors que ce soit enfin en consultation parce que soit incité par son cher papa, soit spontanément, Marcel ira voir des professeurs dans l'espérance jamais, toujours déçue, que son asthme sera amélioré par tel ou tel.
Alors, les premières pages, mais non, les premiers chapitres de votre ouvrage constituent une sorte de galerie de portraits de ces sommités de la médecine de l'époque. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas très tendre avec eux. Si je peux relever quelques adjectifs que vous leur appliquez, mondains, prétentieux, égocentriques, avides de gloire, plus occupés à soigner leur renommée que leurs patients, avides de reconnaissance, médaillés, et surtout, probablement le pire des qualificatifs, incompétents.
Oui. Alors, cette incompétence, on ne peut pas la leur reprocher, car le médecin peut ce qu'il sait, c'est-à-dire qu'il est compétent en fonction des moyens dont il dispose, et ces braves professeurs de l'époque de Marcel Proust n'ont pas de moyens, ni diagnostiques, ni thérapeutiques. Mais ça, on ne va pas leur reprocher. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est que quand ils ne savent pas, ils inventent. Ils jargonnent, ça, on le sait depuis Molière, et ce qui est grave, surtout, c'est qu'ils culpabilisent, c'est-à-dire que, ne connaissant pas l'origine de l'asthme, ils finissent par invoquer ce qualificatif à tout faire de nerveux. Alors on dit à Marcel, vous êtes un nerveux, si vous avez de l'asthme, c'est parce que vous êtes un nerveux, vous n'avez qu'à vous calmer et ça ira mieux. Alors Marcel a écouté ses boniments pendant plusieurs années, et puis il a fini par se dire que ça ne marchait pas, qu'il ne pouvait plus continuer à être culpabilisé comme ça. Il a compris l'ignorance dont ces médecins paraient leur discours, et c'est à ce moment-là quand même qu'il a progressé dans sa recherche personnelle, qui n'a pas été très fructueuse, puisque l'asthme a continué à évoluer, n'est-ce pas ? Les médicaments ne sont pas apparus comme ça miraculeusement. Mais lui, il a compris ce que pouvait être l'asthme, c'est-à-dire une parole de l'être souffrant, et il a fait son cheminement vers la notion d'inconscient humain, rejoignant dans cette façon, de façon très intéressante mais assez bizarre, la démarche de monsieur le docteur Sigmund Freud. Le docteur Freud part de la médecine, de la neurologie pour arriver à la psychanalyse. Et Proust, lui, il part de l'inconscient pour arriver à une conception moderne de la pratique médicale.
Alors que, précisons-le, il ne se connaissait bien sûr pas. Il ne se connaissait pas. La frontière de la langue qui était importante d'une part, l'éloignement géographique aussi dans une moindre part. Mais donc, ce sont des cheminements différents qui aboutissent au...
Curieusement, voilà. C'est ça qui est intéressant. Ils ne sont jamais lus, ni vus, ni parlés.
Toutefois, lorsque le jeune Marcel Proust commence ses investigations à la fois littéraires et personnelles sur sa maladie, nous n'en sommes pas du tout encore là. On est confronté à deux, dans la médecine, je veux dire, et on est confronté à deux figures. Je vais en extraire de cette galerie portrait, peut-être d'une part le propre père de Marcel, ou alors le professeur Cottard, comme vous voulez, très attaché à l'aspect mécaniciste, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça,
oui, bien sûr,
des maladies.
Oui.
Et de l'autre côté, le professeur Édouard Brissot, dont vous nous rappelez qu'il sert de modèle d'ailleurs à l'un des personnages des romans de Proust. Que représentent ces deux pôles antinomiques ?
Alors vous avez raison parfaitement de les opposer, car ils sont opposables en tout point. On pourrait dire d'Adrien Proust que c'est un brave homme, avec tout ce que la formule peut comporter d'un peu de péjoratif. C'est un homme qui est venu de la campagne, de Hillier. Il est un gros travailleur, il s'est mis sérieusement à la médecine, son étude, sa pratique. Il est devenu grand spécialiste de l'hygiène, l'hygiène publique, l'hygiène nationale et internationale. Mais c'est un homme qui n'a jamais atteint une certaine dimension intellectuelle. Et en plus, il a quelques défauts, si on peut résumer ainsi. C'est-à-dire qu'il est plutôt homophobe et assez antisémite avec l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire qu'il est exactement à l'opposé de son fils Marcel, qui est homosexuel et qui est favorable à Dreyfus. Alors, on a toujours tendance à dire, oh, dans la famille, Proust, tout va bien, on s'aime, on s'embrasse, etc. En fait, ça ne pouvait pas aller très bien. Alors, il y a évidemment les liens affectifs d'un père pour son fils et d'un fils pour son père, mais manifestement, il ne pouvait pas y avoir une vraie communication, une vraie compréhension. Car Marcel est plein de finesse et plein de distinctions, d'érudition aussi, dans tous les domaines de l'art et de la littérature. Et manifestement, Adrien n'en est pas là. Alors, vous avez évoqué le professeur Brissot. Brissot, lui, est un homme brillant. Il est brillant, il fait du théâtre, il est ami des artistes. Il a joué lui-même au théâtre, etc. Et c'est un neurologue estimé de Charcot. Donc, dans l'école neurologique de la Salpêtrière, indéniablement, c'est un homme qui est considéré. Mais il se trouve que, pour des raisons bizarres, il a été amené à s'occuper de l'asthme bronchique, dont il ne sait absolument rien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Marcel a été fasciné par la personnalité de Brissot. Il est séduisant, séducteur. Marcel est séduit. Mais il s'apercevra un beau jour que c'est un sganarelle de Molière, c'est-à-dire qu'il répète des choses qu'il ne connaît pas.
Alors, il y a peut-être une troisième figure qui est plus salvatrice, celle d'Albert Charles Robin, si je me souviens bien. C'est lui qui permet quand même au jeune Proust de se départir d'une partie de sa culpabilité. C'est un autre modèle humain, non ?
Absolument. Robin, c'est un mondain, c'est un homme qui a un grand succès dans Paris et à l'international, puisqu'il est ami avec le rédacteur en chef de New York Herald. Il fait une carrière extrêmement brillante. Et Proust l'approche, le rencontre. C'est un ami donc de Samuel Pozzi. C'est un ami aussi de nombreuses stars du tout Paris. Et grâce à Robin, Marcel fera des rencontres intéressantes dans le monde du théâtre et de l'opéra.
Alors, on est quand même frappé par la promiscuité entre tous ces professeurs et Marcel Proust. À tel point qu'on se demande s'il les fréquente pour soigner sa maladie ou à titre documentaire, comme une série de personnage en devenir, comme une matière romanesque dont on sait qu'il va s'emparer d'ailleurs. Il est très assidu quand même. Hein,
Bien sûr. Alors là, vous réunissez plusieurs aspects de la personnalité de Marcel Proust. Il est très friand de médecine, il est curieux de tout, mais il est curieux de médecine. Il voudrait savoir, il voudrait comprendre, et en particulier, évidemment, sa maladie personnelle. En plus, il est fasciné par ces grandes figures de la médecine parisienne. Et enfin, il est avec eux une relation un petit peu ambiguë, car il est dans la séduction. En même temps, il voudrait... il fait une étude de caractère qui va lui servir évidemment pour la recherche, puisque dans la recherche, la place des figures médicales est très importante. Donc, il fait sa cueillette en rencontrant tous ces médecins. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ces quelques grandes figures, dont celle du père que vous avez évoquée, ont été très peu profitables à Marcel Proust, alors que des médecins dont on parle peu, qui n'ont pas été professeurs de la faculté de Paris, ont été comme par hasard bénéfiques. Ils se sont beaucoup intéressés à lui dans un humanisme bien fondé. Et c'est très émouvant la façon dont Marcel les évoque plutôt que ces grandes figures professorales.
Alors, s'ils ont été plus bénéfiques, n'est-ce pas parce qu'ils sont rentrés davantage, ont admis davantage une relation plus intime, plus bienveillante, moins haut-perché et pleine de propos péremptoires, parce que finalement, c'est une partie des choses que vous leur reprochez.
Toutes ces raisons à la fois, vous êtes parfaitement dans le vrai. Il est évident que ces médecins ne jouent pas aux stars, parce que ce n'est pas du tout dans leur tempérament. Ils sont très humains, ils sont très proches de leurs patients. Ils sont compétents, Et je crois que par cette espèce de communication directe avec le malade Marcel Proust, l'asthmatique Marcel Proust, il lui propose des solutions, au moins des pistes, au moins un réconfort, en particulier ce médecin traitant qui le suit pratiquement pendant des années et qui sera là jusqu'à la fin.
Alors toutefois, cette relation de Marcel Proust à la médecine n'est pas seulement celle d'un patient, vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui non seulement se renseigne, se documente, mais qui même, à bien des égards, et ce qu'il affirmera d'ailleurs à la fin, souhaite faire mieux que le médecin. Voilà. Parce que face à ce spectacle quand même d'une médecine déficiente, en tout cas pour traiter l'affection dont il souffre, il décide de se prendre en main lui-même et de s'y intéresser. Alors là, j'étais sidéré parce que je l'ignorais totalement.
Absolument. À force de fréquenter les médecins, il s'estime médecin lui-même. Il y a du médecin rentré, évidemment, chez lui. Il a appris pas mal de choses à l'écoute de la table familiale. Il s'est beaucoup informé. Il lit beaucoup de livres de médecine. Et il estime que finalement, ses recettes à lui font aussi bien que celles des professeurs. Et je l'ai mentionné dans le livre, il a une série de clients.
C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas seulement de l'automédication. Voilà. Il fait des prescriptions pour ses amis.
Voilà, il prescrit aux autres.
Je sais pas si je l'aurais suivi, sincèrement.
Oui, bien sûr. Il n'est pas toujours pertinent, c'est évident. Mais de notre côté, il n'est pas toxique, il n'est pas nocif. Et c'est touchant, cette façon qu'il a de vouloir venir au secours des autres, qui prouve bien que c'est ce qui lui manquait à lui. Il avait besoin d'une écoute et d'une oreille compatissante et complaisante. Oui. En particulier avec Gaston Gallimard, il ne manque pas de lui donner des conseils pour sa santé.
Oui, oui. Y compris par écrit.
Voilà.
Lettre très importante.
Des ordonnances, en quelque sorte, oui. Voilà comment il faut faire. Oui. Alors, évidemment, son asthme, l'asthme de Marcel lui sert pour écrire, que quelquefois il y a des allusions à l'asthme, il décrit parfaitement des crises d'asthme. Cet asthme l'handicape puisqu'il vit souvent enfermé, il a des problèmes dès qu'il sort au printemps, etc. Mais il s'en sert aussi, pas seulement en alibi, comme nous disions au début de cet entretien, mais aussi comme moteur. Et c'est là où Proust est à la fois génial et profondément humain. Il a compris que s'il n'y avait pas dans l'œuvre littéraire et chez l'écrivain, que le créateur, quel qu'il soit, s'il n'y avait pas cette espèce de moteur venu des profondeurs, il ne pouvait pas y avoir de création. Avec un point de vue un peu sacrificiel, c'est-à-dire que finalement, il faut souffrir, il faut être allé au fond de la détresse pour parvenir à cette vérité humaine qu'il recherche et qu'on aperçoit finalement assez bien lorsqu'il rédige Le temps retrouvé.
Oui, moi, l'adjectif qui me viendrait, c'est à bien des égards, je le trouve christique.
C'est-à-dire que absolument, votre qualificatif.
Il y a une métaphysique de la souffrance.
Votre qualificatif est parfaitement fondé. Je ne peux pas, là, de mémoire, citer une référence qui l'approuverait, mais il est évident qu'il est dans une démarche de rédemption, de sacrifice, parce qu'il faut que l'œuvre, qui est plus importante que moi, que ma santé, que ma survie, il faut que l'œuvre arrive, il faut que la création. Et il y a cette phrase là quand il dit que en passant devant les vitrines, on ne verra pas tout ce qu'on coûtait de pleurs, de crises d'asthme, d'urticaire, etc. Tout ce que ça peut coûter de une création réalisée.
Oui, il explique d'ailleurs qu'à bien des égards, les religions, mais toutes les plus hautes œuvres d'art dans tous les domaines, sont nées d'une souffrance. Et je crois, si je ne me trompe pas, il cite même une série de maladies, l'asthme, l'épilepsie.
Absolument. Il fait l'énumération. Alors de là, évidemment, il ne faut pas faire un raccourci qui prétendrait que pour être génial, il faut être malade, ce qu'on a fait quelquefois. Mais il est évident que derrière tous ces grands créateurs, qui sont en peinture, en musique, en littérature, il y a une vie qui, à un moment donné, c'est consacrée exclusivement, obstinément, scrupuleusement à cet achèvement d'une création.
Est-ce qu'il n'y a pas, je m'éloigne un peu du propos, ensuite on reviendra au cœur du livre, mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette façon de mettre en scène et de placer sa maladie quand même au cœur de son œuvre et de sa vie, même si elle s'y est installée toute seule, mais il l'accepte, une façon de réagir à l'idéologie de son temps? Je m'explique. On est dans une époque où, comme son père, on est dans l'hygiénisme, on valorise la santé, la vigueur, on pense qu'on pourra éradiquer tout cela. Et lui, je suis désolé si ça sonne un peu comme un cliché romantique, vient replacer la maladie, la souffrance, la chute au cœur de la vie.
Mais vous avez parfaitement raison. Il a compris que la maladie faisait partie de l'individu et que prétendre qu'un jour l'être humain sera sans maladie, c'est une utopie. La maladie comme parole de l'être. Et ce qui est un de ses caractères, de ses traits de génie, c'est le saut qu'il réalise du physique dans le psychique. Alors, ce saut, on l'a qualifié de psychosomatique, etc. Mais là où l'allergologue, asthmologue que je suis est admiratif, c'est qu'il lit quelque part la découverte de l'anaphylaxie, le phénomène de l'anaphylaxie. Ana, contraire, phylaxos, protection. Ce sont deux Français, prix Nobel, Richer et Portier, qui découvrent le phénomène. C'est-à-dire, ils tuent un chien qu'il voulait immuniser, qu'il voulait protéger. Alors Proust voit ça et il lit ça, je ne sais pas très bien, mais enfin autour de 1905, et immédiatement il fait le passage à la psyché, c'est-à-dire que il transpose ce phénomène physique, biologique, en phénomène psychique. Il dit, les personnes que nous rejetons, que nous ne pouvons pas supporter, il cite l'ambassadeur du Turquie qui lui casse les pieds, c'est ça, c'est que il ne dit pas nous sécrétons des anticorps contre ces personnes, mais il en fait la base du rejet. Il y a des rejets psychiques comme il y a des rejets biologiques, et moi je trouve ça absolument passionnant, parce que l'allergie qui, lorsque j'ai commencé la pratique médicale, était non pas un phénomène marginal, mais enfin, il y avait relativement peu de personnes souffrant d'allergie. J'ai publié les 4 premières observations françaises d'allergie au cyprès. Et dans mon équipe, mes successeurs en sont à 3000 observations. Donc c'est un phénomène croissant de par le monde entier. Donc Proust a senti que de plus en plus de gens évolueraient vers ces rejets, avec tout ce que ça représente à l'échelle mondiale et à l'échelle des sociétés, les rejets communautaristes, etc. Je trouve que là aussi, dans ce domaine, Proust prend une place absolument exceptionnelle.
Parce que dans son œuvre, il y a beaucoup de métaphores de ce type-là, mais qui sont d'ailleurs dans le langage commun. Je ne peux pas le sentir, je ne peux pas l'avoir, on est quand même dans le registre.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais lui, ça va bien plus loin, parce que ce que vous nous apprenez, c'est que ce ne sont pas juste des figures de style comme cela. C'est qu'il établit de réelles correspondances entre ces phénomènes médicaux et des phénomènes psychologiques ou sociaux.
Absolument, oui.
C'est quelque chose de très maîtrisé.
Oui, bien sûr.
Alors dans ces, je veux dire, ces illuminations, ou cette découverte, vous en citez une qui est, je trouve, particulièrement éclairante, c'est l'histoire de cet amant jaloux qui soudainement devient asthmatique. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en tant que médecin?
Oui, alors c'est une histoire qu'il raconte très bien. C'est un monsieur qui est amoureux d'une dame. Il s'apprête d'ailleurs à la quitter et on pense évidemment à la relation de Marcel avec Reynaldo Hahn. Et au moment où il a établi tout son plan pour la quitter, qu'est-ce qu'il lui dira, qu'est-ce qu'il fera, etc., voilà qu'il est renversé par un cheval au bois de Boulogne. Il a la jambe brisée, donc il est alité, il est invalide, il est immobilisé. Et alors, pendant cette immobilisation, voilà que il se souvient d'une phrase qu'il a entendue rapporter, c'est-à-dire que son amante donne ses faveurs à une tierce personne, et voilà que, se sentant lui incapable d'être auprès de cette femme comme il était auparavant, il devient jaloux. Et d'une jalousie terrible qui l'empêche de vivre, et voilà qu'il fait sa première crise d'asthme. Alors là, évidemment, on retrouve Marcel dans le chapitre de la jalousie, qu'il a particulièrement étudié avec Albertine, etc. Et aussi, on trouve un aspect de son personnage, c'est-à-dire que à la fois, il est ravi, il a la perspective d'être séparé d'Albertine, et il regrette d'avoir consacré autant de temps et d'argent à une femme qui finalement était si peu digne d'intérêt. Et puis en même temps, sitôt qu'elle a tourné le dos et qu'il en est séparé, il voudrait la retrouver, la rattraper. Donc on voit bien l'ambiguïté. Et effectivement, Proust finit son histoire en comparant l'affaire de ce blessé jaloux avec l'asthmatique. Alors, ce qu'il dit, mais ça c'est une autre nouvelle des plaisirs et les jours, mais elle rejoint l'affaire. C'est une dame qui est tellement belle que tous les hommes lui courent après, et il y en a qu'un qu'elle voudrait et qui est insensible à son charme. Et celui-là, elle le laisse indifférent. Indifférent, c'est le titre l'intitulé de la nouvelle. Alors Proust a cette comparaison magnifique. Il fait la comparaison avec l'asthme. Au fond, l'enfant qui toute sa vie a respiré librement ne se rend pas compte que l'air lui était vital. Et il faut, pour qu'il s'en rende compte, qu'il en soit privé. Et il dit, de la même façon, dans nos amours, dans nos relations humaines, ce qui nous les rend précieuses, c'est le manque. C'est quand elles nous manquent que nous apercevons du prix qu'elles avaient.
Mais ça pourrait être une définition de la santé, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Quand on est jeune, vigoureux, adolescent, on est invincible. On ne se rend pas compte.
On est immortel. Oui. Voilà. On peut fumer. Volonté.
Ce qui est intéressant aussi dans cette première nouvelle, je parle de l'amant, si j'ai bien compris, l'amant jaloux qui devient asthmatique, c'est que c'est la mise en mots du fait qu'un état psychologique peut avoir une influence sur les organes. Parce que si je ne me trompe pas, on pouvait déjà admettre à l'époque que des problèmes d'organes aient un impact sur l'état psychologique ou moral. Mais l'inverse était moins admis.
Bien sûr. Et c'est là où se trouve tout le génie de Sigmund Freud, c'est que Monsieur Charcot, à la Salpêtrière, fait défiler le mardi matin des scènes d'hystérique avec le tableau fameux de Brouillet.
C'est assez effroyable d'ailleurs comme passage. Hein.
Oui, bien sûr. Donc, ce sont des femmes qui connaissent le rôle qu'elles doivent jouer. Elles jouent très bien le rôle, elles se pâment, elles tombent dans les bras de l'interne. Mais c'est M. Freud qui, lui, va plus loin et explique pourquoi ces femmes sont hystériques. Je veux dire que les premières publications de Freud sont des années où Charcot reste un peu dans le symptôme. Non pas qu'il ait manqué, lui aussi, de qualité, mais il n'a pas franchi ce pas qui consistait à analyser profondément les sources de l'hystérie.
Alors, cela dit, avant qu'on en arrive à Freud, on sent que ces idées-là sont quand même dans l'air du temps. Il y a un passage où vous décrivez justement, c'est la Salpêtrière, c'est ça, hein ?
Oui.
La modification de la Salpêtrière, puisque quelques années ou décennies, je ne sais pas, après Charcot, si on visite la Salpêtrière, il n'y a plus cette grande salle, mais une série de cellules individuelles qui sont un peu comme des confessionnals où où il y a une relation plus intime et de dialogue avec les patients. C'est un basculement complet, non ?
Absolument. Si Freud a franchi le pas décisif, l'école française, l'école neurologique française est très brillante. Et c'est M. Alain Joannine qui a décidé de sectoriser comme cela son service pour pouvoir parler individuellement avec les malades. Il a mis en œuvre la psychothérapie, les premières séances de psychothérapie, car il s'est aperçu que les méthodes thérapeutiques très modestes dont il disposait n'étaient pas suffisantes. Et là, vous avez raison, on assiste manifestement à une bascule des compréhensions des maladies, en particulier dans le domaine de la neurologie. Et le champion, peut-on dire, en ce domaine, le précurseur que Proust a connu, a apprécié, c'est le fameux docteur Saulier, qui est le grand oublié de l'histoire de la médecine.
Justement, je voulais que vous nous le présentiez. Allons-y, il le mérite.
Alors Saulier, oui, est un élève de l'école de la Salpêtrière. Il est brillant, il a publié beaucoup de travaux sur la psychologie des maladies, mais il n'est pas arrivé à l'agrégation. Il s'est installé dans le privé. Il est dans une clinique parisienne et peut-être est-ce là la raison pour laquelle il n'a pas connu le succès que ses travaux auraient mérité. En tout cas, ses travaux ont été longuement méconnus, mais Soli avait le choix entre... pardonnez-moi, tout à l'heure j'ai parlé d'Alain Joannine, c'est Dejerine. Donc on a donné à Marcel Proust le choix entre une cure chez Dejerine et une cure chez Saulier. Alors il a beaucoup hésité, il a tergiversé, il a été très agaçant avec tous ses amis pour leur demander leur avis. Puis finalement il est allé chez Saulier. Alors chez Saulier, il n'est pas resté longtemps. Saulier hospitalisait ses malades pour 2 mois. Lui, il est resté quelques semaines. Il a fait une cure très imparfaite, alors que Saulier les voulait très, très cadrés. Il a continué à recevoir des visites, à écrire des lettres, etc. Mais on ne peut pas penser que ce séjour chez Saulier a été absolument neutre, a été absolument nul du point de vue de l'influence, de la compréhension du rôle de l'inconscient dans l'œuvre de Marcel Proust. Là aussi, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir, qui consisterait à dire que Marcel Proust et son œuvre doivent trop à Saulier, non, mais il ne faut pas non plus mésestimer l'influence qu'ont pu avoir les travaux de Saulier dans la compréhension de l'inconscient chez Proust, car on a trouvé dans ses notes des mentions du docteur Saulier.
Oui, puis du reste, il y a quand même, c'est presque une allitération, mais qui est frappante. C'est dans les travaux du docteur Saulier, si je ne me trompe pas, un des termes centraux, une des notions centrales, celle de reviviscence. Lorsqu'on sait que dans l'œuvre de Marcel Proust, ce sont les réminiscences, voilà, on sent qu'il y a quelque chose à creuser quand même.
Vous avez tout à fait raison.
Même s'il y a des distinctions entre les deux. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Ce que voulait Saulier, c'était faire revivre des scènes du passé. Voilà pourquoi il appelait reviviscence. Et les reminiscences de Proust sont très proches, car ce n'est pas à vous devant vous qu'il faut le souligner. La réminiscence n'est pas seulement l'évocation d'un phénomène du passé, c'est son rétablissement avec son acuité dans toute sa vigueur émotionnelle d'une scène du passé. C'est ça. Donc effectivement, vous avez raison de le souligner, les phénomènes sont très proches.
Ce qui frappe à la lecture de votre ouvrage, d'ailleurs, c'est la façon dont à cette époque, les milieux littéraires, scientifiques, les sciences humaines, la philosophie, tout cela est quand même extrêmement imbriqué, dialogue quand même allègrement. On découvre soudainement que des neurologues sont inspirés par Bergson, en tirent des conclusions, des pistes de recherche. C'est assez fascinant, assurez-moi. C'est toujours le cas aujourd'hui ou pas. À ce point, je veux dire. Cette convergence des disciplines est assez étonnante.
Oui, 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 parce qu'on a affaire à des gens, une génération de personnes, médecins ou pas, qui sont extrêmement curieux, qui s'interrogent, au lieu d'annoncer comme ça des affirmations infondées comme l'ont fait leurs prédécesseurs. Ils se posent des questions et ils essaient d'y répondre avec des réponses qui aujourd'hui sont insatisfaisantes, mais ils essaient d'aller de l'avant. Et c'est là où, encore une fois, Proust est génial dans sa démarche tout au long de sa vie. C'est une évolution permanente.
Alors cette figure du professeur Marcel Proust n'appartient pas seulement au passé, car j'ai appris en consultant la conclusion de votre livre que vous-même, vous l'utilisez, vous le conseillez à titre thérapeutique à des patients.
Oui, on parle beaucoup aujourd'hui de bibliothérapie, c'est-à-dire la thérapie par la lecture, et je crois que celle de Proust s'inscrit magnifiquement dans ce cadre. Et pour ma part, à ce monologue, sa lecture m'a beaucoup apporté, puisque je parle assez longuement de la métaphore de la duchesse de Guermantes à propos de l'asthme. Et j'ai conseillé à des consultantes de lire Proust. Et bon, bien entendu, je leur prescrivais aussi des médicaments et puis je leur parlais. Mais chez quelques-unes et quelques-uns d'entre eux, la lecture de Proust s'est avérée très, très intéressante, comme d'ailleurs la lecture de Paul Valéry ou de Raymond Queneau. Tous les écrivains sont intéressants, mais je pense que les malades, quels qu'ils soient, ont beaucoup à apprendre à la lecture de La Recherche du Temps Perdu.
Lorsque vous évoquez ces expériences, on sent que ce que peuvent en retirer les malades est en quelque sorte à deux niveaux ou dans deux dimensions. Il y a d'une part la démarche qui était probablement celle de Marcel Proust, d'ailleurs faire de sa maladie une compagne si désagréable fut-elle qu'on accepte et dont on essaye aussi de tirer des bienfaits de différents ordres, mais aussi carrément un effet curatif. Pouvez-vous nous donner des cas qui éclairent cela, la façon dont la lecture de Marcel Proust non seulement permet, peut-être au-delà de trouver un frère en souffrance et qui permet de vivre avec elle, d'aller vers la guérison.
Oui, Proust souffre terriblement de son asthme, en même temps il s'en sert comme moteur d'écriture pour la recherche, et il recommande, lorsqu'il fait paraître la première édition du côté de chez Swann, il recommande que le prix de vente soit très modeste pour que tout le monde puisse le lire. Donc son souci, ce n'était pas l'élitisme, c'était d'être abordable à chacun, parce qu'il pensait que son livre était fait pour tout le monde. Et la meilleure preuve donc, que je donne dans mon livre, c'est que certaines des personnes auxquelles j'ai conseillé la lecture de Proust s'en sont trouvées satisfaites parce que chacun peut trouver dans Proust ce qu'il recherche. Vous me direz que c'est banal, qu'on lise un poète, qu'on lise un romancier, etc. On a toujours sa lecture individuelle. Mais on peut trouver chez Proust beaucoup de choses. Et je cite l'exemple d'une jeune femme qui était très cortisonnée, qui avait un asthme rebelle, etc. À laquelle j'ai conseillé la lecture de Proust, dont j'ai perdu la trace, et qui un beau jour m'a donné de ses nouvelles en me disant qu'elle avait découvert ce qui manquait, le trou qu'il y avait dans son enfance, et que le fait d'avoir ressuscité cette réminiscence donc avait joué chez elle un rôle thérapeutique déterminant.
Ce qui prouve que Marcel Proust mérite bien le titre de professeur que vous lui attribuez.
C'est ce qui a été décisif pour le choix du titre.
Merci beaucoup. Si je peux ajouter une dernière chose, nous sommes probablement tous un petit peu des malades qui s'ignorent. Il faut donc lire, lire, et bien sûr lire Marcel Proust, et lire aussi votre ouvrage, qui en constitue une excellente introduction, inédite et passionnante. J'en rappelle donc les références. Le professeur Marcel Proust, par le professeur François-Bernard Michel, aux éditions Gallimard. Merci à tous de votre écoute et merci à vous, professeur.
Merci à vous, monsieur.